Cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Joseph, le 8 avril 1987.
Continuons cette découverte de la naissance de la justice dans notre appétit spirituel. Comment il est nécessaire d'une nouvelle détermination d'un habitus, donc d'une vertu, pour que nous puissions opérer volontairement des actes de justice qui soient parfaits, qui soient même délectables, puisque c'est le signe de la vertu, tandis que l'appétit spirituel n'a pas besoin d'être perfectionné par un habitus par rapport au bien. C'est toujours très important de bien saisir cela. L'appétit spirituel est naturellement déterminé par le bien. On n'a pas besoin d'être vertueux pour être attiré par le bien. C'est plus radical que la vertu. C'est ce qu'il y a de plus foncier en nous. Et ceci ne peut pas être détruit, ou peut-être vicieux, par rapport à la justice. Il peut y avoir des voleurs qui sont tellement vicieux, qui croient bien faire en volant. Tandis qu'à l'égard de l'appétit vis-à-vis du bien, il y a quelque chose de foncier qui est l'appétit naturel qui se porte vers le bien. Évidemment, même cet appétit peut être détourné par le vraisemblable, par l'imaginaire, mais il restera toujours un appétit foncier vers le bien. C'est la nature même de notre volonté qui se porte vers le bien. Et le grand obstacle à cet appétit vis-à-vis du droit de l'autre, c'est les passions et l'imaginaire, c'est évident. C'est cette sorte d'égocentrisme. Mais quand on aime, l'égocentrisme trouve encore son bien, puisque on peut aimer en accaparant, tandis qu'on ne peut pas poser un acte de justice et être égocentrique. Parce que vous regardez le droit de l'autre, et le droit de l'autre, c'est le respect absolu de l'autre. Et c'est pour cela qu'on a besoin de cet habitus, de cette vertu qui naît progressivement en nous, pour nous apprendre à dépasser cet égocentrisme. On ne naît pas juste, tandis qu'on est avec la capacité d'aimer. Mais vous ne naissez pas juste, il faut acquérir progressivement la vertu de justice. Et acquérir progressivement la vertu de justice, c'est acquérir progressivement cette capacité qu'il y a de respecter les droits de l'autre. Alors, il y a quelque chose de naturel. Naturellement, on est juste. Mais étant donné le poids du sensible, et alors on dirait au point de vue théologique, le poids des conséquences du péché originel, ça, je ne peux pas en parler au point de vue philosophique, étant donné le poids du sensible, le poids du bien immédiat. C'est que j'ai instinctivement le souci d'accaparer pour moi. Quand je vois quelque chose qui est bon, qui est bien, qui est un moyen excellent, je le mets très facilement dans ma poche, si je ne fais pas comme attention. Et le mouvement presque quasi naturel, c'est de mettre dans ma poche. Vous voyez un billet de 100 francs qui se balade. Il n'est à personne puisqu'il se balade. Et vous le mettez dans votre poche. En regardant bien s'il n'y a personne qui vous voit. Comme Moïse quand il a dégringolé l'Égyptien, il a fait attention. Si personne ne le regardait, et il y avait quand même un regard indiscret. Parce que quand vous regardez rapidement, s'il n'y a personne, votre regard est trop rapide, étant donné l'appétit si fort que vous avez vers le billet de 100 francs. Et là, vous ne regardez plus objectivement, vous le regardez à travers votre passion qui désire mettre le billet de 100 francs dans votre poche. Trop rapide. C'est extraordinaire, ça. Et ça demeure, cette espèce d'égocentrisme qui fait que, quand même, être juste dans ses activités, être juste quand on se sert de l'auto, du bien commun, c'est-à-dire permettre que le voisin, que le suivant pourra s'en servir immédiatement, même si ça nous coûte un tout petit peu de mettre les choses au point. Ça nous demandera 3 minutes, 5 minutes. Et si on ne le fait pas, ça demandera une demi-heure au suivant. Il n'y aura pas ça à cause de l'égocentrisme, à cause de cette passion qui est en nous. Et on dira, je ne l'ai pas fait méchamment, mais c'est bien évident, vous ne l'avez pas fait méchamment. Vous l'avez fait tout simplement parce que vous vous aimiez plus que le voisin. C'est pas méchant de s'aimer plus. C'est pas méchant de s'aimer plus quand, de fait, vous ne lésez pas les droits du voisin. Mais quand vous lésez les droits du voisin, alors c'est pas bien. Or, dans le bien commun, si vous ne restituez pas le bien tel qu'il a été, vous lésez les droits du voisin. Parce que lui doit compter sur le bien commun comme vous-même vous avez pu compter. Et vous voyez, il y a quelque chose de très particulier dans le bien commun. C'est plus difficile de respecter le bien commun que de respecter le bien particulier. Parce que dans le bien particulier, vous savez qui vous lésez. Dans le bien commun, vous ne savez pas qui. Alors, il a bon dos. Mais vous retombez dans une sorte d'anonymat du bien commun. Le bien de l'État. Ne pas payer ses impôts. À peu près tout. Il y en a tellement, ils ne feront pas attention à moi. Je disparais dans la foulée. Là, il peut y avoir des motifs très justes hein, qui font que je ne fais pas mes impôts exactement comme il faut. C'est la conscience d'un citoyen. Et la conscience d'un citoyen français, c'est très très particulier. Parce que la conscience d'un citoyen helvétique n'est pas du tout la même que la conscience d'un citoyen français. Et la conscience d'un citoyen anglais n'est pas la même que celle d'un conscience français. C'est très très curieux. J'ai toujours observé ça. Quand j'étais à Fribourg, la conscience du citoyen français, c'est la plus, je ne dis pas la plus limpide, mais la plus souple dans toute la manière. La question de la justice, on doit être attentif à ça, parce qu'il y a peut-être une petite rectification à faire. La justice, ou un italien serait aussi assez proche du français. Là, ils s'entendent. Ils peuvent s'entendre. Les frontières n'existent plus très fort entre français et italien. Est-ce que c'est l'italien qui a contaminé le français. Est-ce que c'est le français qui a contaminé l'italien? Ou bien, c'est une manière, chacun, de prendre le bon de l'autre. Vous savez, et dans ce domaine-là, on trouve très vite des complémentarités. C'est extraordinaire. Alors, découvrir le droit de l'autre et de comprendre que ce droit, il a des modalités diverses. Alors, il y a le droit de l'individu. C'est ce qu'on appelle la justice commutative. Donnant, donnant, l'individu. Chacun, nous avons des droits. C'est des droits personnels. Quand vous achetez quelque chose, parce que c'est là où on comprend le mieux, quand vous achetez quelque chose, vous devez normalement payer le prix. Et dans les grands magasins, comme ça se fait aujourd'hui, ça favorise le vol. Puisque tout ne peut pas être surveillé. Je connais un surveillant d'un de ces grands magasins qui me racontait l'autre jour des tas d'histoires sur ce fait. Le nombre de vols qu'il y a, c'est affolant. Mais au fond, c'est terrible, parce qu'on favorise des situations de vol. Alors évidemment, on surveille, c'est sûr, on met des surveillants, mais il faudrait beaucoup, beaucoup plus de surveillants pour pouvoir prendre tout le monde. Alors, on favorise des situations, parce qu'il y a une séduction. C'est pas, on présente les objets, on les présente. Et quand on les voit, et qu'on sait que ni vu ni connu, cet objet ferait mieux dans ma poche que là où il est. On l'ennoblit en le mettant dans sa poche, puisqu'il est à nous, et de l'autre côté, il est à personne. Et c'est très grave, parce que petit à petit, on supprime le sens de la justice. Je suis persuadé que ça joue beaucoup plus que ce qu'on ne pense. Alors là, c'est une question de climat. Parce que quand on a perdu le sens de la justice, vous savez, ça va très loin, ça. On arrive très vite à glisser vers des choses qui sont... Au début, c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Quand on regarde le budget d'un de ces gros magasins, Mammouth, je dis très bien la chose. Ça dit admirablement la chose. Il n'y a pas de justice à l'égard du Mammouth. Aucune. Des justices à l'égard d'un individu, c'est perdu de temps. Et puis, le budget est tellement, qu'est-ce que ça signifie? Une petite poussière, rien du tout. C'est ça qui est légitime, le petit raisonnement qu'on fait. Il gagne tellement, c'est une injustice flagrante. Alors, faisons un peu la justice nous-mêmes. Moi, je suis un pauvre type, je gagne à peine ma vie, alors je prends. Et petit à petit, voyez, ça favorise le vol. C'est grave de favoriser le vol. Et c'est curieux que le climat d'aujourd'hui fait ça. Et petit à petit, ça fera que la justice commutative, qui est la fondamentale, c'est la plus grosse celle-là, donnant, donnant, je prends ça, ben c'est quand même, c'est le fruit d'un travail, c'est le fruit d'un... Et puis, je dois donner quelque chose. Et si au bout d'un certain temps, je m'habitue à ça, je crains que le sens de la justice disparaisse complètement. Le vol premier, c'est par rapport à ça, c'est par rapport à la justice commutative. Et c'est vrai que c'est toujours très désagréable d'être volé. C'est très désagréable de voir quelqu'un est passé, puis à rafler ce que vous aviez laissé sur votre table. Et après ça, sans mettre un petit billet, je te le rendrai dans un mois, parce que j'en ai absolument besoin tout de suite. Ne t'inquiète pas, je le rendrai. Le droit premier, c'est justement ce droit que nous découvrons dans la justice commutative. Il y a un droit beaucoup plus subtil qui correspond à la justice distributive. La justice distributive, c'est par rapport, vous voyez, à la communauté. Donc, d'une certaine manière, ce n'est plus l'éthique personnelle, et pourtant c'est encore l'éthique personnelle. Parce que ça regarde la personne humaine dans sa dignité. Le droit qu'on a à être respecté en fonction de ses capacités. La justice commutative correspond à l'aspect hiérarchique, l'ordre qui existe dans une communauté. Chacun d'entre nous, on a des qualités qui regardent la dignité de notre personne. Dans une communauté, si la justice distributive est bien respectée, chacun doit être là il pourra le mieux permettre à la communauté de s'épanouir. Et c'est celui qui a la responsabilité du tout qui doit établir cette justice distributive. Dans un pays, le roi, président de la République, il est responsable. Ce point de vue-là. Tant, si le roi a encore l'autorité royale, s'il n'a plus qu'une autorité très diminuée, et qui regarde uniquement pouvoir sauver un condamné à mort, là, c'est encore de la justice distributive. Sauver un condamné à mort, quelqu'un qui a été condamné, le droit de grâce. Gracier quelqu'un, c'est la justice distributive. C'est pas parce que vous avez le droit de gracier quelqu'un que vous devez gracier tout le monde. Non. Mais c'est la justice distributive dans ce cas-là, peut-être de plus éminent et d'ultime. C'est le dernier droit qui disparaît pour la royauté. Et c'est le dernier droit qui demeure. Alors, il est extrême. Et comme il est extrême, il est peut-être ce qui fait le mieux comprendre ce que c'est que la justice distributive. Gracier un condamné à mort. Gracier un condamné à mort, c'est quelque chose de particulier. Je me souviens quand le père Braun, en Belgique, était aumônier du roi, il disait que c'est la question la plus difficile. C'est que on sait que l'aumônier est proche du roi. Et le roi peut gracier. C'est très délicat comme fonction. Parce qu'en tant qu'aumônier, il n'intervient pas dans le pouvoir. En tant que les pauvres types touchent un aumônier qu'on sait prêtre et donc plein de miséricorde. Et qu'on lui demande alors, doit-on transmettre? Doit-on transmettre? C'est très délicat. Justice distributive. Mêlée à la miséricorde. Oui. La miséricorde n'est pas la justice distributive. Et le chrétien, dans sa justice distributive, il y a la miséricorde qui joue. Alors, je ne regarde pas ça, mais notez bien que, de fait, tout est transformé par la charité, tout est transformé par la miséricorde. Alors, c'est tous les conflits qui peuvent exister apparemment entre miséricorde et justice. Et ça, c'est les très gros problèmes de la conscience chrétienne. Ici, je regarde d'abord le point de vue philosophique de la justice. Alors, je ne regarde pas ce conflit. Mais dès qu'on aurait une éthique chrétienne, et on y reviendra, c'est ce point de vue de la miséricorde de la justice. Alors, je souligne tout de suite que la justice distributive regarde les droits de chacun à l'égard du tout, à l'égard de la communauté. Chacun, on a des capacités différentes par rapport à la communauté. Et on ne doit pas cacher ses capacités pour être tranquille dans son trou. Surtout quand on voit qu'une communauté est en état de péril. Quand un État est en état de péril, c'est-à-dire que l'autorité est vraiment complètement en dessous de tout. À ce moment, parce que c'est la communauté repose sur la tête. Faut pas oublier que cette tête, ce soit une tête royale ou que ce soit une tête de président de la République, c'est toujours l'autorité suprême. Et c'est la clé de voûte au point de vue de l'autorité. Une clé de voûte branlante ou une clé de voûte solide. Ça dépend quel genre de gouvernement vous avez. Mais c'est quand même une clé de voûte. Or, quand on voit un État qui est dans une clé de voûte très branlante, pour ne pas dire inexistante, si vous savez que vous avez les capacités de pouvoir exercer cette autorité, vous n'avez pas le droit de vous camoufler. Il y a un devoir de sauver son pays, pas uniquement quand il y a une menace extrinsèque, mais quand il y a une menace intrinsèque. On a chacun conscience un peu de ses capacités. Et savoir si on est capable de faire. Bon, ce qui est vrai du côté politique est vrai de toute communauté. Et pour toute communauté, il y a ce devoir, l'autorité suprême. Ce qui est de plus important, c'est la justice distributive. Pour un prieur général nommé d'autres prieurs, ce sont des clés de voûte. Il va être des statuts quelquefois particuliers, parce que c'est difficile, oui, et c'est important de réfléchir sur ce que représente la justice distributive dans le fait de nommer un prieur. Et le prieur de nommer ses subalternes. Ça, c'est la justice distributive. Nommer chacun en fonction du bien commun. C'est en fonction du bien commun. Parce qu'on ne nomme pas la même façon quand il s'agit de nommer un directeur responsable au point de vue des chemins de fer qu'un prieur par rapport à une communauté religieuse. Pas tout à fait les mêmes capacités et les mêmes choses. Quelqu'un pourrait faire les deux, c'est autre chose. Mais celui qui doit choisir ne choisit pas le même. Normalement, bien qu'il y ait un cumul, parce qu'on est devant une impasse, parce qu'on est obligé de. Alors on est obligé de faire un cumul, et on sait que le cumul ne peut pas demeurer. Parce que c'est jamais un bien-être absolu. Il faut réfléchir sur ce que représente l'autorité dans son exercice tout à fait premier qui regarde la justice distributive. C'est nommer chacun là où il pourra être le mieux. Vous voyez ? C'est très complexe pour la question de l'autorité religieuse. Parce qu'il n'y a pas que la justice. Il y a la miséricorde. Il y a le bien de chacun. Mais au plan philosophique, la justice distributive, c'est essayer de comprendre les capacités de chacun, la dignité de chacun par rapport au bien commun. Dans la mesure où il peut aider, sauver le bien commun. Et chaque membre d'une communauté doit comprendre qu'il est responsable du bien commun. Et que si de fait il ne regarde pas le bien commun en disant « moi ça ne me regarde pas », il se met en dehors de la communauté. Et il commet une faute grave par rapport à la justice distributive. C'est vrai. S'exclure soi-même du bien commun et de la responsabilité du bien commun, voyez, tout en étant dans la communauté. Au point de vue profond, c'est une faute grave, puisque c'est peser sur la communauté sans apporter ce qu'on peut apporter. Le seul cas particulier, c'est les novices. Par définition, un novice est celui qui pèse sur la communauté. C'est le propre. est sur la communauté comme un enfant dans son berceau, qui pèse sur la communauté sans pouvoir apporter plus que ses cris. C'est le propre du noviciat. Ça, c'est sûr. C'est très curieux, du reste. Mais c'est très important de comprendre ça. Alors, de temps en temps, parce que les novices peuvent être très capables de rendre de très grands services, alors de temps en temps, dans des cas difficiles, on demande à un novice non seulement de peser, mais de donner. Et au plan chrétien, on sait très bien que les novices portent par leur prière. Et quelquefois, ils portent plus par leur prière que s'ils faisaient quelque chose d'efficace. Alors ça, c'est point de vue chrétien. Point de vue philosophique, est-ce qu'on peut dire ça dans une vision de sagesse? Oui, donc la justice distributive peut se rattraper d'un point de vue spirituel. Il y a une justice distributive qui va jusque-là, dans une vision de sagesse. Dans une vision de sagesse, c'est-à-dire au point de vue religieux. Dans une vision chrétienne, c'est bien évident. Plus vous êtes déchargé au point de vue de la responsabilité, plus vous êtes responsable spirituellement. Si on vous décharge complètement d'un point de vue de l'efficacité, parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes trop vieux, ou parce que vous êtes incapable. Ça peut arriver. Hein. Alors, aimablement, on vous fera comprendre qu'il vaut mieux pas. Plus vous devez porter spirituellement, et vous n'avez pas le droit de vous écarter. Les fautes contre la justice distributive sont les plus graves, dit saint Thomas, au point de vue de la justice. Donc, s'écarter volontairement du bien commun, en disant que ça n'a rien à voir, tout en restant membre d'une communauté, au plan de la justice distributive, c'est très grave. Parce que c'est rester perpétuellement novice. Ce qui est la situation idoine d'être novice, vous comprenez, la situation idoine. Je n'ai pas de responsabilité. On vous enlève vos responsabilités quand vous êtes novice. On vous dit, vous n'avez pas de responsabilité. Mais on vous dit, vous devez, alors, spirituellement, vous devez porter par la prière. Et plus vous êtes déchargé, plus vous portez dans vos prières. C'est curieux, c'est très intéressant de regarder le point de vue de la justice distributive et l'exercice de la justice distributive. Mais c'est ce qu'on dit de façon générale, vous voyez que le défaut qu'il peut avoir vis-à-vis de la vie religieuse, c'est que on vous met novice et vous risquerez de rester indéfiniment novice si de fait vous trouvez que être novice c'est la situation idoine, pas de responsabilité, mais vous n'avez pas le droit au point de vue de la justice de rester perpétuellement novice. On peut l'être vis-à-vis du Saint-Esprit, intérieurement, divinement, mais pas au point de vue de la communauté comme telle. Dans la communauté comme telle, on est toujours une responsabilité. Et dans la mesure où on n'est plus novice, on prend des responsabilités, celles qu'on nous donne. Et la responsabilité de celui qui est supérieur à la communauté doit comprendre qu'il doit porter non seulement par la prière, mais d'une façon efficace, le bien commun. Donc la justice distributive regarde toujours le bien commun. C'est du reste la seule façon de comprendre le bien commun, c'est par la justice distributive. Le bien commun, c'est une chose extrêmement complexe. C'est une chose très très complexe. Et la justice distributive est directement liée au bien commun. Puisqu'il s'agit de mettre chacun là où il pourra le mieux porter le bien commun et coopérer au bien commun selon ses diverses qualités. Et le supérieur, son devoir premier, c'est de mettre chacun selon ses qualités là où il pourra le mieux aider le bien commun. Donc vous voyez, cette chose complexe de la justice distributive, Il y a tout un aspect de l'intelligence qui est très très important. Quelqu'un qui n'est pas suffisamment prudent ne pourra pas exercer parfaitement le point de vue de l'autorité et le point de vue de la justice rétributive. Alors il peut, par le conseil, puisqu'il y a toujours le conseil, arriver à compléter ce qui peut lui manquer dans sa prudence. Parce que la justice rétributive implique un ordre, et l'ordre c'est toujours l'intelligence. C'est pas seulement aimer, avoir un amour pour tout le monde. Il y a des gens qui sont très très bons et qui manquent de justice rétributive. Donc ils manquent d'intelligence. Parce que c'est l'intelligence qui donne le sens de l'ordre et qui permet de mettre chacun l'homme doit être. Les fautes contre la justice rétributive, c'est ce qui détraque le plus le point de vue du bien commun. C'est pour ça que c'est les plus graves. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'acceptio personarum. L'acceptio personarum, c'est de mettre des petits copains. Là où, selon notre cœur, nous les mettons, mais ça ne correspond pas du tout à leur capacité. Alors tout le monde en pâtit, au point de vue, hélas, au point de vue politique, surtout quand la politique est une politique des partis, c'est ce qu'on voit le plus. Dès que vous avez un petit, quelqu'un qui est du parti au pouvoir, immédiatement, il inonde. Le bien commun de ses petits copains. Et en faisant ça, il pervertit l'ordre social. Et la perversion de l'ordre social, c'est ce qu'il y a de plus difficile à relever après. Il suffit quelquefois de très peu de temps pour que tout soit complètement perverti. Et ça, c'est des fautes contre la justice rétributive. C'est des plus graves. Et c'est parce que, justement, on ne regarde plus le bien commun. On ne regarde plus que le côté affectif. Les petits copains. Dans tous les ordres. Alors ça, c'est ce qui divise, c'est ce qui est le plus grave. Au point de vue de la justice, ce sont les erreurs les plus graves. Les erreurs passionnelles, affectives, qui sont les plus graves. Regardez uniquement le bien commun en fonction de ces petits copains. En fonction de l'amitié qu'on a pour les uns et pour les autres. Alors ça n'a pas d'importance. C'est lui que j'aime le plus et que je veux à côté de moi, alors qu'il est incapable de remplir la fonction qu'il doit avoir. Alors on doit être très attentif là-dessus. L'exercice de l'autorité réclame le dépassement de tout le côté affectif. Des liens affectifs pour regarder un point de vue d'ordre qui est objectif, le bien commun de tous et non pas de soi. Troisième vertu de justice, c'est le point de vue de la vertu, l'égal, c'est le tout, c'est la loi, l'observance de la loi. Payer ses impôts, c'est une justice légale. Alors c'est un droit nouveau, celui-là, mais c'est toujours le droit. C'est ça qui est intéressant, on va essayer après de revenir là-dessus, parce que cette notion de droit est toujours très difficile à saisir. Alors on a essayé de la saisir au point de départ. Nous la saisissons ici, selon ses diverses modalités, et en fonction de ces diverses modalités, revenir ensuite à mieux préciser ce que c'est que le droit. Troisième modalité de la justice légale, à partir de la loi. On fait partie d'une communauté, mais c'est toujours une justice personnelle. On fait partie d'une communauté, parce qu'on fait partie d'une communauté, on doit observer les lois qui régissent cette communauté. Donc, payer ses impôts, payer ses redevances, a un contrat de travail, on doit l'observer. Puisque le contrat de travail, c'est comme la loi à l'intérieur de cette communauté des travailleurs. Donc, c'est encore une justice particulière, celle-là. Parce qu'elle regarde le point de vue de l'autorité. C'est plutôt l'individu qui monte vers le sommet. Tandis que la justice distributive, c'est le sommet qui descend vers l'inférieur. Il y a un mouvement inverse dans la justice légale et dans la justice distributive. C'est proche et en même temps c'est très différent. Dans la justice légale, c'est le tout qui mesure la partie. Dans la justice distributive, c'est celui qui a autorité qui doit mettre la partie en conformité au tout. Et on doit répondre à cela. On doit répondre à cette exigence de la justice distributive. Donc, vous voyez bien ces trois aspects. Alors, il y aurait aujourd'hui à se demander au plan philosophique que représente la justice sociale dont on parle dans les documents de l'écrit. Dans les documents de l'enseignement de l'Église. Vous voyez, mettez bien ça, parce que c'est important. Justice distributive. Justice légale. Alors, en même temps, justice sociale. Sociale n'apparaît pas chez Aristote. Cherchez bien. La justice sociale est un concept qui est apparu récemment. Je crois que le premier qui parle de la justice sociale, c'est Rosmini. Rosmini, un Italien. Milan. Rosmini a une théorie assez particulière au point de vue philosophique. C'est que Rosmini dit qu'il y a un concept inné, c'est le concept d'être. Ça, c'est Rosmini. Et les Rosminiens sont des gens très bien, du reste. Rosmini est un homme très bien, très digne. Il y a de l'ontologisme chez lui, mais il y a une espèce de dignité. C'est un chrétien. Alors, la justice sociale est née là. Et l'Église s'en est emparée. Donc elle est d'abord née en dehors de l'Église, chez un philosophe chrétien. Alors, le point de vue de la justice sociale, on devrait regarder la justice sociale dans le point de vue de l'éthique chrétienne sociale. De sorte que je n'ai pas à la regarder maintenant. Je situe bien ça, mais je pourrais me demander sur quoi la justice sociale se fonde. Est-ce une quatrième modalité de la justice? C'est ça qui m'intéresse ici. Est-ce une quatrième modalité de la justice? Ou est-ce que ce n'est pas une quatrième modalité de la justice? C'est un problème très difficile. Mais je crois que c'est un problème nécessaire au plan philosophique. Parce que la justice sociale n'a pas une panacée. La justice sociale, il faut des cours de la justice sociale au point de vue chrétien pour comprendre ce que c'est exactement. Alors, c'est intéressant de se poser la question. J'ai ici trois modalités de jus. Du droit. Y a-t-il une quatrième modalité de jus avec la justice sociale? Avec donc ce que dit Rosmini, parce que c'est Rosmini qui le premier l'a dit, donc philosophiquement, c'est ça qui m'intéresse. Ça m'intéresse plus de regarder ce que Rosmini a dit que de voir la justice sociale dans les documents pontificaux au plan philosophique. Comprenez bien. me faites pas dire quelque chose qui ne serait pas juste au plan chrétien, mais au plan philosophique. Ça m'intéresse plus de regarder ce que c'est que la justice sociale chez Rosmidi et se demander s'il y a une quatrième modalité du jus. Je crois, je dis ça personnellement, puisque j'ai étudié ce problème avec des juristes quand j'étais à Fribourg, parce que ça m'intéressait beaucoup, au plan philosophique, savoir s'il y a un jus différent. C'est important. C'est pas parce qu'Aristote n'en a pas parlé que faut s'arrêter à Aristote. Mais d'autre part, si j'emploie le mot justice sociale, il faut savoir ce que ça veut dire. Et on n'a pas le droit d'employer ce terme sans connaître exactement ce que ça veut dire. Je peux très bien, par obéissance à l'Église, dire oui, la justice sociale, faire des conférences sur la justice sociale sans savoir ce que ça veut dire. Parce que c'est ce qui arrive très souvent. Alors il faut comprendre par rapport à la philosophie, puisque toute théologie pratique repose sur la philosophie. Il faut savoir si, au point de vue philosophique, il y a un quatrième jus, quatrième modalité du droit. Je pose la question. Et on doit se la poser. Si on est chrétien et qu'on veut être philosophe, on doit se la poser. Et tant qu'on ne se l'est pas posé, on emploie le mot justice sociale sans savoir très bien ce que ça veut dire. Ce qui arrive constamment, hein, ça. Je vous affirme, quand vous faites une enquête là-dessus, j'ai essayé de la faire, eh bien, vous voyez que les gens n'ont pas réfléchi au plan philosophique. Alors, on doit le faire. Je crois personnellement que la justice sociale est née en face des conflits de la justice, en face de réactions vis-à-vis d'une justice distributive, commutative, de plus en plus complexe. C'est-à-dire des contrats de travail où on a rappelé, et c'est ce que Rosmini fait, et c'est ce que l'Église, à la suite de Rosmini, rappelle, que dans un contrat de travail, on doit tenir compte de la dignité de la personne. Et en tenant compte de la dignité de la personne, on doit tenir compte de toute la responsabilité de cette personne. Un contrat de travail n'a pas le droit de se faire de la même façon si vous avez affaire à un célibataire ou un père de famille. Et c'est vrai, un père de famille qui a des charges d'enfants. Mais normalement, on ne peut pas faire un contrat de travail de la même façon. Vous mobilisez un homme, s'il est père de famille ou s'il est célibataire, pas de la même façon. Et la justice sociale, c'est le rappel d'une chose qui avait été complètement oubliée en face du libéralisme. Mais c'est face au libéralisme qui ne regardait que le contrat de travail de façon efficace, en face d'une efficacité absolue du contrat de travail. Et on prenait des situations exprès, particulières, pour que de fait le contrat de travail soit à l'avantage du patron, et le plus possible. Donc on ne regardait que l'efficacité. Face à cela, parce que le point de vue de libéralisme poussé à l'extrême, c'est un oubli complet du travailleur pour ne regarder que l'efficacité. Confère l'encyclique sur le travail du Saint-Père. Quand le Saint-Père met dans la même erreur le libéralisme et le marxisme, le Saint-Père veut faire comprendre que de fait, d'un côté comme de l'autre, il y a l'oubli de l'homme travailleur. Quand vous faites un contrat de travail, faites un contrat de travail avec l'homme travailleur, si la justice est présente, puisque la justice regarde toujours la dignité de la personne humaine. Or, dans le libéralisme, on ne regarde plus la dignité de la personne humaine, comme dans le marxisme. On ne regarde plus la dignité de la personne humaine, on ne regarde que l'efficacité du travail. En fonction de la marche de l'usine, en fonction du coût de la vie et de l'efficacité. Alors, la justice sociale a été quelque chose qui a été inventé pour rappeler que le contrat de travail ne pouvait pas se faire uniquement dans ce contexte et qu'il fallait regarder la dignité du travailleur. Et on le fait dans un point de vue chrétien, par le point de vue de la charité. Donc c'est la charité qui vient transformer la justice et qui donne un sens plus grand de la personne. Puis petit à petit, la justice sociale s'est installée comme un concept de justice sociale. Vous voyez, je crois qu'il faut être très attentif à ça. Je ne crois pas que la justice sociale nous donne un quatrième ius. Mais c'est le rappel d'une chose qui avait été oubliée. Si je suis attentif à ces trois droits, je vois que toujours dans le droit, je touche la personne. Je ne peux pas séparer la justice de la personne. C'est une éthique personnelle. Et donc je ne peux pas, regardez, et que dans un contrat de travail intervient la justice commutative, la justice distributive et la justice légale. Dans tout contrat. Donc c'est quelque chose de complexe. Et je n'ai pas le droit de le ramener uniquement à l'efficacité. Donc au sens précis. Autre chose. Et regardez l'analyse du droit que nous faisons ici en éthique. Autre chose de regarder l'exercice de ce droit dans la complexité d'une communauté politique, communauté de travailleurs. Et la justice sociale, c'est essayer de regarder la complexité de l'exercice et non pas l'analyse. Ne confondons pas, tout simplement. Ici.